Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez présente dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont vous a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui sont en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, celui qui est sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison, celui qui est dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront dans ces jours-là. » Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Car il y aura grande affliction alors, comme il n'en fut jamais depuis le commencement du monde, et jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si l'on vous dit le Messie est ici ou bien il est là, ne le croyez pas. Car il surgira de faux messies, de faux prophètes. Ils feront de grands miracles et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Voici que je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici au fond de la maison, ne le croyez pas. Car de même que l'éclair part du levant et brille jusqu'à l'occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là où se trouve le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors se lamenteront toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Apprenez cette parabole tirée du figuier. Dès que son rameau devient tendre et que poussent les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez tout cela, comprenez que c'est proche, c'est à votre porte. En vérité, je vous le dis, l'âge présent ne passera pas que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Asseyez-vous quelques instants. Navré de ce retard. Voilà. Qui n'est pas dû, pour une fois, à mon inattention. Voilà. Un rail a sauté en fait, sur la ligne qui amène à tournant le RER. On m'a demandé de faire de la retape pour la 20e fête du livre de Renaissance catholique, voilà, qui a lieu le dimanche 27 novembre, voilà, de 11h à 19h, c'est-à-dire, si je m'abuse, dans une semaine, voilà, à Grand Maison, à Villepreux, en fait, à 20 km à l'ouest de Paris. Voilà, il y aura des petits tracts à la sortie, et si vous souhaitez des informations supplémentaires, eh bien, il faudra vous adresser à Philippe Germain. Mes chers amis, quel spectacle à la lecture de cet évangile. On est un peu perplexe de voir que l'année liturgique s'achève dans une sorte de livre qui tient plus du cauchemar que d'autre chose, et on a hâte que la lumière se fasse et qu'enfin on se retrouve dans cette ambiance de l'Avent assez confinée, vous savez, comme celle d'une maman qui attend son enfant. Voilà, c'est quand même autre chose, un peu plus délicat, un peu plus sympathique. Alors on aimerait sauter par-dessus ce dimanche, et voilà, je n'ai eu qu'un peu de retard, mais heureusement vous avez pu avoir la lecture de cet évangile, sinon vous n'auriez pas eu, et il aurait manqué quelque chose à votre instruction. Voilà. L'évangile que nous propose l'Église aujourd'hui est d'une rare violence. On a plutôt l'habitude d'entendre notre Seigneur parler en des termes consolateurs, en des termes encourageants, hein, toujours très fermes, mais en même temps très bons, très doux. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il se laisse aller, qu'il n'en peut plus, et dans une sainte colère, il dénonce, il s'acharne, et voilà, comme une sorte de sanction pour le refus qu'on fait de lui. Ce passage de l'évangile de saint Matthieu est situé après le dimanche des Rameaux, dans cette grande semaine, dans la semaine sainte, et Jésus touche au terme de sa vie terrestre, et puisque les choses pressent, eh bien, son discours se fait de plus en plus catégorique, de plus en plus ferme. Les sectes millénaristes ont évidemment reconnu, depuis 2000 ans, leur propre époque, et nous ne sommes pas exempt de cette tendance, de cette tentation, hein, quand ce n'est pas 2000, à la Paco Rabanne, ce sera 2012, 2013, voilà. Je vous rappelle que personne, pas même le Fils de l'homme, ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais il est bon de l'asséner à nouveau, je crois. Voilà. Et je pense que ce texte doit s'accompagner d'une clé de lecture. comme à chaque fois, et là encore, je crois vous en avoir déjà parlé, comme à chaque fois que dans l'Écriture, les termes sont grossiers, ou les figures sont presque naïves, on a un peu l'impression que c'est cela ici, comme dans le livre de la Genèse, comme dans le livre de l'Apocalypse, à chaque fois que vous avez une espèce d'ambiance de conte, en réalité, c'est que le Saint-Esprit veut vous communiquer des réalités très profondes, plus profondes. Donc il faut une clé de lecture. Quelle est cette clé de lecture? On a l'impression, je vous le dis, d'avoir un Dieu vengeur, un Dieu méchant. Et ce n'est pas du tout ce qui correspond à ce que le Seigneur a pu annoncer. Le Seigneur est venu annoncer un Dieu qui est amour. Alors comment essayer de comprendre ce passage? Je crois qu'il y a dans ce passage, au contraire de ce qu'on pourrait appréhender au premier regard, la preuve que Dieu est amour. On y voit, un, le fait qu'il respecte parfaitement la liberté de l'homme, qu'il ne veut pas s'imposer comme un amant qui viendrait violer sa maîtresse. Et deux, le fait qu'il demande la coopération de l'humanité à son propre salut. C'est ce qui apparaît, je crois, en trame dans cette partie de l'Évangile. Vous voyez, on est bien loin de toute espèce de prédication de malheur, tout est foutu, voilà, essayons de nous jeter au pied de l'autel. Non, pas du tout. Là, on a vraiment, très profondément, une preuve éminente de l'estime que Dieu, de l'amour profond que Dieu a pour sa créature. Je m'explique. Dieu ne force pas la créature à l'aimer. Il le montre le Christ en tout cas le montre dans ce petit passage, d'une manière négative et d'une manière positive. D'une manière négative, en nous montrant que ceux qui ne veulent pas lui, mais qu'ils aillent à leur propre sort, ce n'est pas lui, le Christ, qui va s'imposer à eux. Ils ne veulent pas de Dieu, libre à eux, mais qu'ils en essuient les conséquences. On voit qu'il est fait allusion ici au sort, d'une part, des Juifs, du temps du Seigneur, qui n'ont pas accueilli le Christ qu'il est, qui n'ont pas reconnu en lui le Fils de Dieu. Jésus fait allusion, c'est clair, à la destruction du Temple de Jérusalem. Et cette destruction du Temple de Jérusalem, qui en même temps symbolise la caducité de l'Ancienne Alliance, elle est une sanction divine à l'infidélité du peuple qui avait pourtant été choisi et qui avait fait l'objet de toutes ses faveurs. Vous voyez, là, Jésus annonce cela de façon très claire. Cette prédiction intervient alors que le Christ vient d'annoncer aux pharisiens et aux scribes combien ils étaient malheureux. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Vous voyez, il vient de dénoncer l'infidélité. Il vient d'entrer dans Jérusalem et il vient de se lamenter sur le sort de la ville sainte. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, etc. Vous voyez, ici, c'est une sorte d'accomplissement, au moins par prophétie, de tout ce qu'il enseigne depuis un certain temps. Arrêtez de me rejeter, parce que votre peuple va être rasé, votre temple sera rasé. Vous voyez cette espèce d'appel amoureux du Christ. Voilà, donc, première manifestation que la créature est parfaitement libre, le Seigneur prophétise que si les Juifs ne veulent pas le suivre, eh bien, ils essuieront la chute de leur propre peuple et la chute de leur propre temple. Très étonnant. Deuxième catégorie de personnes dans lesquelles apparaît cette possibilité d'une grande liberté, mais jusqu'à malheureusement la damnation, jusqu'à se couper de Dieu, c'est cela qu'il faut voir si l'on refuse Dieu, ce sont les faux messies et les faux prophètes dont parle le Seigneur Jésus. Alors là, il ne s'agit plus du tout des Juifs qui ont rejeté le Messie et qui verront le temple s'effondrer. Il s'agit des premiers chrétiens, des judéo-chrétiens, qui ont entouré le Seigneur et qui se sont crus, à un moment ou à un autre, autorisés à telle ou telle doctrine et qui se sont, voilà, crus inspirés par le Saint-Esprit dans un mouvement charismatique quelconque pour conduire le peuple là où Dieu ne le voulait pas. Vous voyez, il y a cette possibilité, il y a cette liberté qui est laissée par Dieu à l'homme, aux chrétiens notamment, de se tromper. D'errer, eh bien là encore, ils auront à essuyer les conséquences de leurs actes. Ce n'est pas lui, Jésus, qui viendra les violer. Il les prévient, il les aime, il les aide, mais jamais il ne fera obstacle à leur chute. Vous voyez combien on voit apparaître dans ces prédictions du Christ une liberté absolue de l'homme. Il y a une possibilité de dire oui et une possibilité de dire non, mais avec les fruits que l'on sait. voyez, dans l'homélie d'ouverture, là j'ai aussi fait allusion plusieurs fois, je crois, à ça, l'homélie d'ouverture du synode sur la parole de Dieu en 2008, Benoît XVI a prononcé une homélie magnifique dans laquelle il faisait allusion à, puisque c'était le récit de l'évangile du jour, à la parabole des vignerons homicides. Que disait-il à propos de cette homélie, à propos de ces vignerons homicides? Eh bien, il disait que c'était les chrétiens inconstants, les chrétiens versatiles, qui ne remplissaient pas leur mission, et qui, parce qu'ils ne remplissaient pas leur mission, ils ont tué le Christ, etc. Vous savez, comme moi, vous connaissez parfaitement le contenu de cette parabole, les vignerons tuent les serviteurs qui sont envoyés par le maître. Puis, le maître envoie son fils, et on le tue également. Voilà des vignerons qui sont quand même un peu curieux. Eh bien, le pape Benoît XVI, de façon très limpide, de façon très claire, explique que ces vignerons homicides, c'est nous autres les chrétiens, qui ne sommes pas fidèles à notre tâche de prophétie, c'est-à-dire d'annonce de la parole de Dieu. Et qu'advient-il alors? Et là, Benoît XVI a employé un terme dont nous n'avions plus l'habitude, de la part du successeur de Pierre, le terme de châtiment. Châtiment à ceux qui ne seront pas fidèles à leur rôle de prédicateur du royaume. Évidemment, en premier lieu, le Saint-Père et les évêques qui lui sont unis, et les prêtres, bien sûr, mais en deuxième lieu, vous-même. Vous voyez combien il y a une liberté laissée par Dieu. Il nous donne tout, il a tout donné aux Juifs, il donne tout aux premiers chrétiens, il nous donne tout, et il nous laisse en user dans une parfaite liberté. Évidemment, les comptes seront demandés au terme de ce passage terrestre, évidemment, et c'est à cela que le Christ fait allusion. La chute de Jérusalem et en même temps la fin des temps, le retour du Fils de Dieu dans la gloire et parfaite vérité qui éclatera aux yeux de tous, et où des comptes publics seront demandés, enfin des comptes individuels seront demandés, mais en public. Ce texte de l'Évangile, donc, montre d'une manière négative, par toutes les sanctions qu'endureront les personnes infidèles, combien nous sommes libres. Mais il montre également d'une façon positive combien nous sommes libres. Il montre la récompense que les fidèles obtiendront. Il montre également les mérites, le poids des mérites de ceux qui sont restés fidèles, lorsqu'il fait allusion au fait que ces jours sont abrégés, ces jours seront abrégés à cause des élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jours seront abrégés à cause des élus, et les jours de la chute du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et également les derniers jours, qui seront pour le moins houleux, d'après le récit qu'en fait le Seigneur Jésus lui-même, eh bien, cet aspect douloureux des choses sera atténué, notamment grâce à l'intercession de ceux qui sont restés vraiment fidèles. Vous voyez là qu'on a une belle récompense pour ceux qui ont su user de cette liberté que Dieu leur laissait et qui ont coopéré à l'œuvre divine. Donc, ça c'est la première caractéristique de ce texte. On voit apparaître dans ce texte, encore une fois, le fait que Dieu laisse la créature parfaitement libre parce qu'il l'aime et qu'il ne veut pas la violer. Il y a une deuxième trame, une deuxième ligne qui court dans ce texte, c'est le fait que Jésus nous prend très au sérieux et qu'il attend notre coopération. Il ne veut pas nous amener au ciel en dépit de notre volonté. Il nous amène au ciel parce que nous le voulons bien. C'est vous dire combien Dieu estime l'homme. Non seulement il le laisse libre, autrement dit, mais il lui demande de coopérer. Et ça apparaît dans le texte en question. Ça apparaît par la médiation des justes dont je viens de vous parler. Vous voyez que les justes coopèrent à ce salut que Dieu offre à tous par leur prière, par leur application et par leur intercession. Vous voyez, il y a la responsabilité que les hommes ont à l'acquisition de leur propre salut qui apparaît en permanence dans ce texte. Je suis un peu perdu dans mon homélie, comme vous l'aurez bien compris. Depuis deux minutes, je patine un peu, mais je reviens à vous. Voilà. Je vais l'abréger puisqu'il est déjà tard et que je ne retrouve pas le fil de mon propos, peu importe. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est ça. Donc, cette parfaite liberté que Dieu laisse à l'homme, en même temps que la coopération qu'il exige de lui. Vous voyez ? Et le fait que cela ne se fait pas sans douleur. Dans ce texte, on voit effectivement une panoplie d'effets spéciaux, on a l'impression que c'est cela, qui sont extrêmement durs. Voilà. Et saint Paul nous parle dans son épître des douleurs de l'enfantement. Nous avons à coopérer librement à l'œuvre rédemptrice de notre Créateur, mais cela se fait dans la douleur que l'on sait. Et Jésus nous explique que de même, et saint Paul également, que de même que la parturiente souffre étonnamment, puissamment, et qu'après elle ressent un très grand bonheur d'avoir mis au jour un enfant, bien, de même, nous souffrons et nous souffrirons de cette fin des temps, mais déjà de la fin de notre propre vie, mais qu'au-delà de ces souffrances, le Seigneur nous offre la béatitude éternelle. Tant que nous tiendrons dans les mains, avec reconnaissance, en réalité, ce sera notre propre âme en présence de Dieu dans la gloire. Voyez, si nous avons solidement coopéré grâce à la liberté que Dieu nous laisse. Voilà. Mais bien, chers frères, nous entrons dans une semaine dans le temps de l'Avent et nous allons essayer mais je vous en parlerai la semaine prochaine, de faire quelques petites démarches d'Avent, comme on fait des démarches de carême, mais de façon un petit peu plus atténuée, disons, pour vraiment revigorer la vie de notre âme et pour revigorer la vie de cette chapelle, de sorte que vraiment nous puissions être dans les meilleures dispositions au moment de la fête de la naissance du Sauveur dans un peu plus d'un mois. Voilà, mais je vous parlerai de tout ce petit programme la semaine prochaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.